Tous ceux qui ont fait de longs voyages en avion, soit vers l'est, soit vers l'ouest, connaissent le phénomène du décalage horaire. Quand on va vers l'est, on avance dans le temps. Ce dimanche, à l'heure qu'il est, 11h du matin, ici, il est dimanche, 9h du soir, à Melbourne. Dans l'autre sens, quand on va vers l'ouest, on remonte le temps. Ce même dimanche, 11h du matin ici, il est dimanche, 6h du matin à Fort-de-France, n'est-ce pas? À la Martinique. Quand on rentre d'un long voyage, il faut plusieurs jours pour se caler à nouveau sur l'horaire qui est habituellement le nôtre. Sommeil, repas, il faut retrouver un petit peu le sens de ces mots, parce que dans l'avion, on ne sait pas si on vous sert un déjeuner ou un souper. Le reste, ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est de manger. Rentrant de 3 semaines en Australie, nous avons connu là-bas d'autres décalages que le décalage horaire par rapport à nos repères habituels. Par exemple, la conduite automobile à gauche. J'avoue que même au bout des 3 semaines, j'étais toujours un peu effrayé de voir les voitures arriver de l'autre côté. Heureusement que je n'ai pas conduit là-bas. Décalage dans le temps, décalage dans l'espace. Il y a aussi des décalages culturels, comme nous avons pu les percevoir dans les églises à Melbourne. Mais ça, c'est un autre sujet. Je me décale complètement de ce que je viens de vous dire pour évoquer le philosophe Alain Finkielkraut, qui a intitulé son dernier ouvrage « La seule exactitude », titre un peu sibyllin. Et l'auteur explique que pour comprendre notre époque, il convient d'être à l'heure, au rendez-vous de l'histoire. Suivant les références du passé qu'on invoque pour expliquer notre présent, on peut ou l'éclairer ou l'obscurcir. Dans une époque qui tend à se prendre pour une autre, l'exactitude devient la tâche prioritaire de la pensée, écrit notre auteur. Être à l'heure ou en décalage horaire, tel est mon sujet de ce matin. Essayer de comprendre les aspects du temps que Dieu nous donne de vivre, à la lumière de ce qu'il nous révèle dans sa parole, tel est mon propos ce matin. Je vais donc lire avec vous une série de textes dans les évangiles. Le premier, je le lis dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 36. Jésus est en train de parler de la destruction de Jérusalem et de la fin des temps. Pour ce qui est du jour et de l'heure, dit Jésus, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous lisons un autre passage dans l'Évangile selon Jean. Nous lisons au chapitre 4, c'est l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. Je ne lis pas tout le récit, je le prends à la fin. Jésus lui dit, Jean 4, 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Voilà une femme qui attendait. Dans un sens, on pourrait dire qu'elle était décalée par rapport à la réalité, puisque Jésus lui dit qu'il est déjà là. Mais il ne faut pas confondre attente et décalage horaire. C'est l'heure pour elle de la révélation. Un autre texte dans le même évangile, selon Jean, au chapitre 12, à partir du verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe. Philippe de Bethsaïda en Galilée, et ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Un peu plus loin encore, dans l'Évangile, toujours selon Jean, au chapitre 16, à partir du verset 16, dans les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père, dit Jésus à ses disciples. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. » Jésus savait qu'il voulait l'interroger. Et il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a mis au monde un enfant. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. L'expression « l'heure, c'est l'heure est là » est une expression qui donc revient assez souvent dans les évangiles. Et le premier sens de cette expression est rattaché, bien sûr, à la venue de Jésus. L'attente juive, convaincue de la proximité des derniers temps, ceux de la plénitude, ceux de l'accomplissement de toutes choses, décompose le temps qui s'écoule, le temps prévu pour l'intervention divine, en jours et en heures. Ils ont laissé de côté des durées plus longues comme les années, les mois, les semaines. Ils parlent surtout de jours et d'heures. Tous les instants comptent quand arrive la fin. Et nous savons que cette pensée juive qui habitait aussi les disciples a marqué tous ces premiers temps de la venue de Jésus. En réalité, c'est avec cette venue que l'heure est là. L'heure vient avec Jésus. C'est l'heure de Jésus. C'est l'heure de l'annonce du royaume. Surtout l'heure de sa passion, de sa gloire qui va couronner l'œuvre qu'il est venu accomplir. Jésus est venu pour accomplir une œuvre que le Père lui a confiée. Et il marche vers l'accomplissement de cette œuvre et vers l'achèvement de cette œuvre. C'est le déroulement du plan de Dieu pour le salut des humains. Les évangiles désignent donc cette heure d'une formule simple et solennelle, « Voici venue l'heure ». Voici l'heure est venue. Ce n'est pas un moment précis repéré sur l'horloge. C'est l'ensemble de la phase suprême de l'activité de Jésus, cette phase que l'activité de Jésus va couronner par l'heure finale. Vous l'avez remarqué dans le passage que nous avons lu dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. L'heure vient, dit-il, et elle est en fait déjà venue. À partir du moment où Jésus est là, l'heure est venue. C'est une heure qui va prendre de plus en plus des allures de drame. C'est une heure qui va entraîner des souffrances. Et c'est pourquoi cette image que Jésus emploie avec l'image de la femme qui arrive au moment d'accoucher est une image très forte, déjà dans la réalité de ce qu'elle exprime, et aussi dans le symbole qu'elle nous propose comme le temps où va s'accomplir le salut dans l'œuvre de Jésus-Christ. L'heure de la femme dont les douleurs marquent l'apparition d'une nouvelle vie. Le contraste très fort entre la souffrance et même l'inquiétude, l'angoisse, et le couronnement de l'entreprise qui est la vie. heure de souffrance dont l'approche déclenche en Jésus même un rude combat intérieur. Vous l'avez entendu dans la lecture que nous avons faite. Et quand nous lisons les récits du jardin de Gethsémané, nous lisons que Jésus commença à éprouver de la tristesse, de l'angoisse, de la frayeur. Il dit à ses disciples, « Mon âme est triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Priez avec moi. » Et Jésus prie le Père, « Père, si c'est possible, délivre-moi de cette heure. » Ces passages intenses, toujours émouvants à lire, à relire et à évoquer, soulignent avec force cette humanité de Jésus qui lutte au moment de voir la mort approcher, tout en étant pleinement le Fils de Dieu. Rude combat intérieur pour Jésus, car c'est l'heure de l'ennemi et du triomphe apparent des ténèbres. Lorsque les sacrificateurs, les pharisiens, les chefs du peuple ont amené avec eux une escouade pour mettre la main sur Jésus dans justement le jardin de Gethsémané, Jésus leur a dit, « J'ai été tous les jours avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. » Mon heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, c'est votre heure. C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure de l'ennemi et du triomphe apparent des ténèbres. Mais c'est plus encore l'œuvre de Dieu et l'heure de Dieu, heure fixée par lui seul et vécue par Jésus selon la volonté de son Père. Jésus est venu pour faire cette volonté. Il accepte cette volonté, malgré l'angoisse qu'il ressent. Parce que cet accomplissement, c'est aussi son heure de gloire, le couronnement de l'œuvre du salut. D'après l'évangéliste Jean, Jésus lui-même appelle une fois cette heure « mon heure », tant il fait sienne cette volonté de Dieu. Nul ne peut, pas même la mère de Jésus, déroger à ce plan divin et solliciter un miracle sans que Jésus n'évoque la venue de son heure. C'est au moment des noces de Cana où la mère de Jésus demande à son fils de faire quelque chose pour ceux qui manquent de vin. Et Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais il a quand même fait le miracle. Et à l'opposé, lorsque des adversaires ont voulu le saisir, le précipiter de la montagne ou le lapider, il est dit, ils ne purent rien faire parce que son heure n'était pas encore venue. C'est en fonction de cette heure que Jésus ordonne toute son activité, tous ses actes de guérison, tous ses actes, tous ses miracles et toute sa proclamation prophétique. Tout essai d'arrestation ou de lapidation est vain tant que son heure n'est pas encore venue. Les velléités humaines se brisent contre cette détermination divine. Mais lorsque vient l'heure de passer de ce monde au Père, l'heure de l'amour poussé jusqu'à son terme éclate. C'est ainsi que Jésus inaugure ses derniers entretiens avec ses disciples par la prière de son cœur à son Père en disant « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». L'heure est venue de passer de ce monde au Père. Et il est dit à ce propos, Jésus, ayant aimé les siens, mit le comble à son amour pour eux, amour poussé jusqu'à son terme. Et le Seigneur, à ce moment-là, annonce tout ce qui va se passer, il l'a déjà annoncé avant, et le Seigneur va librement vers le sacrifice suprême, dominant les événements, tel un souverain sacrificateur accomplissant les actes de sa liturgie, et en même temps, tel un homme parmi les hommes, saisi par l'angoisse et par la crainte. Mais il y est allé jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il a accompli l'acte du souverain sacrificateur, c'est-à-dire son propre sacrifice. Il l'a accompli en allant jusqu'au bout de son œuvre et de son chemin. C'est le dessein de Dieu qui mène l'histoire. Et c'est Jésus qui accomplit pleinement et parfaitement l'œuvre que le Père lui a donné d'accomplir. Lorsque, juste avant de retourner vers le Père au moment de l'ascension, Jésus rassemble ses disciples pour leur annoncer la venue de l'Esprit sur la montagne, les disciples, encore une fois, lui demandent si c'est à ce moment-là que viendra l'heure, si c'est à ce moment-là que s'accomplira la venue du royaume, avec des idées plus ou moins personnelles sur ce que devait être cet accomplissement. Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Il l'avait déjà dit, nous ne savons pas, vous ne savez pas le jour et l'heure, seul le Père le sait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc, premier sens que nous donnons à l'heure, c'est l'heure de Jésus. Et puis, je voudrais, dans une deuxième et dernière partie de ce que je voulais partager avec vous ce matin, parler quelques instants sur l'heure finale, l'heure de la fin, l'heure qui marque le temps de la fin. Jésus annonce l'heure du triomphe final du Fils de l'homme, heure parfaitement inconnue des humains, heure du jugement, et nous avons donc ce texte qui n'est pas toujours facile à comprendre de Matthieu 24, où Jésus décrit à la fois la destruction de Jérusalem qui est intervenue en l'an 70 et des événements qui se produisent tout à fait à la fin des temps. C'est l'heure de la moisson dans le livre de l'Apocalypse. Il est question de cet ange qui jette la faucille parce que l'heure de la moisson est venue pour moissonner la terre. Également imprévu, l'heure des visites de Dieu qui annonce cette dernière heure. Il y aura des épreuves. Dans l'avant-dernière des lettres sept églises de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Philadelphie, Jésus dit, ou fait dire par l'ange, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Le croyant doit se tenir prêt pour cette heure précise, quoique indéterminée. C'est ce paradoxe dans lequel sont appelés à vivre les croyants. Dieu sait exactement le moment, mais aucun sur la terre ne le connaît. Heure précise, quoique indéterminée ou inconnue pour nous. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. L'heure est proche, elle est déjà venue, elle est en marche, c'est la dernière heure. Il faut y ajouter un autre élément, nous en avons parlé récemment, c'est que ce temps qui nous est encore donné, et que certains interprètent comme un temps de retard, parlions de décalage horaire, un temps de retard par rapport à l'attente, par rapport à l'heure qu'on a imaginée, Ce n'est pas un temps de retard, c'est un temps de patience. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et qui est très important. C'est le temps de la patience de Dieu. Et je voudrais donc achever ce que je voulais partager avec vous ce matin en faisant encore quelques lectures pour nous rappeler la signification de ce temps de la fin. Je lis donc dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, à partir du verset 8. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, dit l'apôtre Paul aux chrétiens auxquels il s'adresse. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement comme il convient, en plein jour, sans orgie, beuverie, débauche ou immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. La nuit est avancée, le jour approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Une autre lecture dans la lettre, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Voilà des paroles que nous recevons en direct, comme si elles avaient été écrites pour nous ce matin. Nous revêtons de la cuirasse de la foi et de l'amour et nous mettons le casque de l'espérance, du salut, l'amour, l'espérance et la foi. Un dernier texte connu aussi, bien sûr, dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. à partir du verset 8. Il est question de ces gens qui disent « Tout demeure comme dès le commencement ». Il y a un fait, dit l'apôtre Pierre, que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés pour cette même parole, par cette même parole, pour être livrés au feu, ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement. Nous allons commémorer la mort de Jésus et nous le ferons jusqu'à ce qu'il revienne. Notre Sauveur bien-aimé est allé jusqu'au bout de son chemin, jusqu'à la souffrance et la mort de la croix. Nous allons nous préparer à partager le mémorial de la scène en souvenir de la mort de Jésus. Et nous allons nous y préparer en chantant « Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi ». Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
Attaché à chair à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, mon péché livré, attaché à la croix.
Jésus.